fois, le Seigneur nous parle pendant la semaine et on se dit, mais pourquoi tu me dis ça aujourd'hui? Et cette prédication, je vais la dédier spécialement à José et à Jocelyne. Et vous allez comprendre pourquoi. J'ai intitulé cette prédication « La consolation divine ». Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un hasard, le hasard avec un grand D. On va prier. Merci Seigneur parce que c'est toi qui conduis tout par ton esprit. C'est vrai, comme a dit Jeannette, on n'a pas à juger ce que tu fais, ce que tu prévois. Seigneur, parfois tu nous fais passer dans des déserts. Mais Seigneur, tu nous emmènes à l'autre bord. Seigneur, je te loue parce que lorsqu'on te laisse conduire notre barque, Seigneur, c'est des merveilles que l'on voit s'accomplir autour de nous. Seigneur, que ta parole ce matin, par la puissance de ton esprit, puisse convaincre, puisse élever, puisse relever, Seigneur, ceux qui sont dans la douleur. Amen. J'aimerais qu'on prenne ensemble Genèse 41, ces deux versets, et vous allez vite comprendre. Alors, Genèse 41, versets 50 et 52. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Anath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Le premier point, c'est Dieu console, restaure avec la naissance de Manassé. Joseph a connu des souffrances particulièrement fortes et douloureuses. Il a été exposé à l'hostilité de ses frères, à la haine de ses frères. Vous avez tous lu ces fameux chapitres qui nous ont montré qu'il avait même jeté dans une citerne. Il a été vendu comme esclave et s'est retrouvé en Égypte. Là, il a été, au bout d'un certain temps, mis en prison, injustement. Il a même été oublié dans cette prison. Il a dû affronter l'adversité. Il a dû affronter plein de choses et traverser énormément de douleurs. Néanmoins, quand on regarde l'exemple de Joseph, c'est encourageant, c'est très encourageant, parce que sa vie démontre une présence continue de l'Éternel près de lui. Il a toujours eu le secours de Dieu en toutes circonstances, même les plus défavorables. Joseph n'a pas été épargné, absolument pas, par les difficultés. Pourtant, il aimait l'Éternel et il n'a pas été épargné. Il a vu la main de l'Éternel agir fidèlement dans toute sa vie. Et si on lit 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, on lit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Dans le contexte ici de ce verset, l'auteur insiste sur le fait que les Corinthiens étaient soumis aux mêmes tribulations que ceux qui les entouraient. Ils souffraient les mêmes souffrances. Et le problème pour les Corinthiens, c'est que certains ne cherchaient même pas à éviter ces tentations. Certains ne cherchaient même pas à s'écarter de ces tentations. Mais beaucoup de l'église de Corinthe y cédaient. Et si vous étudiez bien Corinthe, vous allez voir ce que Paul a dû regimber, ce qu'il a dû dire contre ces Corinthiens, où l'on trouvait même des choses sales, de l'adultère, On a trouvé plein de choses. Et c'est triste. C'est triste, mais dans toute tentation, l'Éternel est présent avec nous. On l'a chanté tout à l'heure. Est-ce qu'on a conscience qu'il est présent à nos côtés? Pour en revenir au contexte qu'on a lu ce matin, dans le monde oriental, le choix d'un prénom n'est pas forcément lié à ce que les parents aiment bien. Oh, j'aime bien Grégoire, j'aime bien Pascal, j'aime bien José. C'est pas ça, non, non. Souvent, c'était lié au contexte, à leur cadre de vie, aux événements qu'ils étaient en train de traverser. Et bien sûr, ici, Joseph donne le nom à son premier-né, Manassé. Vous savez ce que ça veut dire, Manassé ? Ça veut dire qui fait oublier. Manassé a fait oublier toutes les expériences malheureuses de Joseph. Il a été béni. Et en fin de compte, Joseph a donné simplement ce prénom parce que il voulait, au travers de cela, dire qu'il avait été guéri totalement par l'Éternel, qu'il avait été restauré totalement par l'Éternel, rien qu'en appelant son enfant. Tu m'as fait oublier. Et pourtant, quand on lit la parole, quand on lit Ecclésiaste, on trouve un verset qui dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Quand on regarde dans l'ancien temps, dans le moment antique, certains textes, on va voir que les gens souffraient autant qu'on souffre maintenant. Les gens ont traversé des choses peut-être plus difficiles qu'on les traverse maintenant. Mais c'est vrai, quand vous voyez avant les mères de famille pour faire la lessive, tout ce qu'il fallait faire, maintenant on appuie sur un bouton. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas difficile, attention, parce qu'il faut trier le linge, changer les couleurs. Donc, il y a toujours les mêmes conditions, mais il y a une très grande différence, une énorme différence. C'est que l'Évangile, la bonne nouvelle qui est prêchée, réside dans la venue de Jésus-Christ, dans la venue du Sauveur, de celui qui est venu pour le pardon des péchés, d'une délivrance profonde de l'esclavage au péché, du rétablissement du corps dans la santé, mais aussi de la consolation dans les afflictions, la joie en lui. Il remplace toutes les afflictions par une joie, par vraiment le fait de se sentir en paix, même si l'on traverse des choses difficiles. Et j'aimerais citer ce verset à José. José en parle souvent et il est un petit peu révolté. Et je ne sais pas s'il a bien fait attention, parce qu'ils disent parfois, quand on le dit dans certaines églises, il s'arrête à ce moment-là. Mais Jésus s'est arrêté à ce moment-là. En Luc, chapitre 4, versets 16 à 20, « Il se rendit à Nazareth, on parle de Jésus, bien sûr, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ce passage est tiré d'Ésaïe 61, versets 1 et 2. Alors, il faut savoir que dans cet épisode-là, Jésus a donné que le verset 1. Il s'est arrêté avant celui qui parle de la vengeance de Dieu. Il avait une raison pour s'arrêter avant de parler de la vengeance de Dieu. Parce qu'il dit, il ajoutait plus tard, plus loin, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Il était en train d'expliquer à ceux qui étaient devant lui que le Messie, c'était lui. Et il était venu sur terre pour délivrer les captifs du péché. Mais il était venu sur terre également pour mettre en place le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas parler de la vengeance de Dieu. Il était, lui, le oint. Il était, lui, le sauveur. Il était, lui, le Messie. Il était celui qui allait mourir sur la croix pour nous délivrer du péché. Et en Jean chapitre 8, versets 34 à 36, « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jésus est dans notre maison ce matin. Notre maison, c'est notre tente, c'est notre corps. Et ce matin, il nous a affranchis du péché. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous a affranchis des afflictions. Il ne nous a pas dit qu'on allait vivre sans détresse humaine. C'est fou. Comme Joseph. Joseph a dû endurer ces choses. Il a enduré les afflictions, il a enduré la détresse, il a enduré le fait de se retrouver seul dans sa citerne et se demander ce qu'il allait lui arriver. On sait ce qui lui est arrivé. Dieu avait un plan magnifique pour lui. Ce matin, Dieu a un plan magnifique pour chacun d'entre vous. Mais, comme Joseph, on a à expérimenter la guérison. Cette guérison divine, cette guérison qui vient de l'Éternel. Beaucoup, peut-être, sont accablés, sont bloqués par ces afflictions. Ils sont complètement, je vais dire, rétrogrades à l'Éternel. Parce qu'ils pensent, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est si difficile? Mais la parole ne nous dit jamais qu'on ne va jamais traverser la tempête. Je vous rappelle que même Jésus était au fond de la barque et pourtant une tempête énorme est arrivée. Ce n'est pas parce que Jésus était dans la barque qu'ils n'ont pas connu la tempête. Ils ont connu la tempête. La seule différence, c'est qu'à un moment donné, Jésus était en capacité de se lever dans la barque et de faire taire cette tempête. Ce matin, c'est ce qu'il veut faire dans vos vies. Il veut se lever dans votre barque et faire cesser les afflictions, faire cesser les tempêtes, faire cesser ces troubles. Le gros danger, c'est de compter sur nous-mêmes, compter sur nos capacités, compter sur notre intelligence pour s'en sortir, alors que le Seigneur est disponible. Dans la barque, le Seigneur est disponible. Jésus a fait une réflexion. Où est votre foi? Est-ce qu'on a la foi ce matin de savoir que Jésus est capable de faire taire toute chose? Est-ce qu'on a cette foi-là? Le psaume 84 est puissant pour expliquer ces choses-là. Psaume 84, versets 5 à 7, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. » Leur force augmente pendant la marche. Plus on s'approche de l'Éternel, plus on devient fort. Plus on est dans la présence de l'Éternel, plus les terrains arides sont couverts de pluie. Ça veut dire que plus nos vies sont couvertes de bénédictions. La main de Dieu ne s'appesantit pas sur nous, mais elle nous relève. Il faut tester ces choses. Il faut vraiment tester la présence de Dieu dans notre vie. Et pour cela, il nous invite à capituler, réellement capituler, à renoncer à vouloir diriger notre vie. Vous savez, tant qu'on va vouloir tenir le petit gouvernail de notre barque, on n'est pas prêt de trouver le chemin. Le jour où on dit, mais Seigneur, pose ta main sur mon gouvernail, je te laisse faire, moi je vais à l'avant du bateau et je te regarde me diriger. Ça paraît facile, mais il y a toujours ce moi qui est là et qui nous empêche de le faire. Il y a ce moi, il y a la religiosité, il y a plein de choses qui nous aveuglent et qui nous empêchent de voir que ben, le Seigneur est là. Et il ne nous force pas. Si tu ne veux pas, je ne le fais pas. En 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15, on lit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » C'est-à-dire qu'on est mort à nous-mêmes. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est clair, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce verset qui dit ça. C'est plus ma vie qui est importante, mais la vie de Christ en moi qui est devenue importante. C'est pas Seigneur prend la première place, Seigneur prend toute la place. C'est ça. C'est vraiment le renoncement à soi-même. Lorsque le cœur de l'individu est disposé à faire ces choses, à ne plus se laisser imprégner par le monde, la miséricorde divine vient et le remplit. Et alors, à ce moment-là, le Seigneur va entreprendre un travail énorme. Il va nous vider pour prendre sa place. Cette place qui lui a toujours été due, parce qu'il est mort pour cela. Il y a, dans cette œuvre de relèvement, il y a deux principes. Enfin, j'ai tiré deux principes. Il y a les interventions directes, sans moyens humains. C'est-à-dire que c'est directement l'Éternel qui agit dans nos vies. Et Paul a vécu ces choses en étant relevé et restauré par Jésus lui-même. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Si on a été consolé nous-mêmes, on est capable de consoler les autres. Par le terme qu'il emploie ici, si vous étudiez ce passage, on a plusieurs significations comme subir des pressions, être dans la détresse ou dans les tribulations. Tout chrétien connaît l'affliction que Paul a connu. Mais je peux vous dire que je pense que Paul a connu une affliction bien plus importante que celle qu'on connaît aujourd'hui. Et il a voulu les exposer à tous ses lecteurs pour que chacun puisse bien comprendre que seul avec la présence de Dieu dans notre vie, on est capable de supporter ces afflictions. J'ai un exemple concret que je ne citerai pas, et je peux vous dire que c'est une merveille d'une personne qui a subi des choses terribles et qui n'a jamais perdu la foi. Et c'est cette foi qui lui a permis de rester debout. Il n'y a que la foi qui nous permet de rester debout. En fin de compte, Paul est en train d'expliquer que il nous demande de passer simplement de la perspective extérieure et temporelle, c'est-à-dire de tout ce qui se passe autour de nous, en une perspective intérieure et éternelle. C'est-à-dire que les choses qu'on va prendre dans notre cœur vont durer à toujours. Et si on lit Corinthiens 4, ces versets nous l'expliquent très bien. Corinthiens 4, versets 17-18, « Car nos légères afflictions du moment, vous voyez, nos légères afflictions du moment, présents, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles et les invisibles sont éternelles. Si nous gardons cette foi, on voit les choses qu'on traverse, mais on va les traverser. Et si on ne perd pas cette foi, c'est la vie éternelle qu'on gagne. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup dans ce monde, de toutes religions confondues, qui ont essayé à qui... Est-ce que vous avez déjà entendu cette réflexion ? S'il y avait eu un Dieu, je n'aurais pas perdu ma mère, je n'aurais pas perdu mon père, je n'aurais pas perdu mon enfant. Combien de fois on l'a entendu ? Combien de fois ? Et vous avez des gens qui ont connu ces mêmes afflictions, qui ont perdu leur mari, qui ont perdu un enfant, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu des êtres chers et qui sont restés droits. Et qui ont continué avec le Seigneur. Ce n'est pas la peine de chercher où ils vont se retrouver, ces personnes-là. Ils vont se retrouver dans la vie éternelle. Les choses invisibles sont éternelles. La bénédiction que Dieu nous donne, elle est éternelle. Et Paul a fortifié la foi de ceux qui l'entouraient par ses prières. Il a prié pour eux afin que la consolation d'en haut, la consolation divine, s'accomplisse pour ceux dont il était entouré. David également était au bénéfice d'une restauration puissante qui venait directement de l'Éternel. Au travers simplement, vous allez dire simplement, mais au travers de sa communion avec l'Éternel, il était constamment avec l'Éternel. Et il a été restauré. Pourtant, il a commis un meurtre. L'Éternel lui a pardonné. Et Jésus donne une promesse qui est magnifique. Et j'espère qu'on va ce matin se l'attribuer, cette promesse. Elle assure en fin de compte la bénédiction pour les affligés. Matthieu chapitre 5, verset 4. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Quoi que vous ayez fait, quoi que vous subissiez, Jésus vous console. Il a dit, je vous enverrai un consolateur. C'est l'Esprit qui est en nous qui nous console. L'Esprit qui nous dit, comme dans le chant tout à l'heure, non, tu n'es pas seul. Je suis avec toi tous les jours. C'est cet esprit vivifiant au plus profond de notre être qui fait qu'on sait que l'Éternel peut se lever dans notre barque et faire cesser toute chose. On n'a pas à rester inactif, on doit manifester sa foi. Pour croire en fin de compte au miracle. Il n'y a que la foi. Vous savez, les quatre qui ont, j'imagine, ça devait être, le gars devait peser au moins 80 kilos. Il ne pouvait pas bouger, il était handicapé. Vous imaginez qu'ils sont passés sur un toit pour l'amener directement par le toit à Jésus. Jésus n'a pas regardé la personne qui était handicapée. Qu'est-ce qu'il a regardé ? La foi des quatre autres qui l'ont transporté. Et il a guéri l'handicapé parce qu'il a vu la foi des autres. Ce matin, le Seigneur regarde notre foi. On a notre part là-dedans. On a chacun notre part. On doit rechercher le Seigneur de tout son cœur. De tout son cœur. Comment on le recherche ce matin? On doit favoriser une communion authentique avec lui. Ce n'est pas son petit chapitre qu'on lit, peut-être, pour se dédouaner de ne pas lire la parole de Dieu. Mais c'est vraiment prendre la parole et la poser sur son cœur. Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi ce midi. Parle-moi ce soir. Parle-moi en tout temps. Et le Seigneur va le faire. Et on va être étonné parce que on va dire des choses et les gens vont nous dire « Tiens, c'est bizarre que tu me dises ça, ça me fait du bien parce qu'il y a ça et ça qui ne va pas dans ma vie. » C'est parce que l'Esprit qui est en vous va parler au cœur de la personne qui est devant vous. L'Esprit de Dieu sert à ça. Communiquer l'amour de Dieu. On a à prier, louer, exhorter. On a peut-être à prendre un engagement dans l'Église, dans l'Assemblée. En fin de compte, on ne s'aperçoit peut-être pas que tous ces moyens sont des moyens thérapeutiques que l'Éternel emploie pour nous restaurer, pour nous consoler, pour nous guérir. Vous savez, il fut un temps, j'étais pas ici tous les dimanches. Hein. Il fut un temps, j'étais ici tous les mois et demi, quand je faisais un autre métier. Mais je peux vous assurer que quand je revenais au bout du mois et demi, quand je rentrais dans cette salle, enfin c'était encore rue de Côte-Saint-Hilaire, je me sentais sale. Je me sentais sale parce que je n'avais pas eu cette communion. Je n'avais pas eu ces mots avec mon Sauveur. Parce que y avait le monde, parce qu'il y avait le travail, qu'il y avait plein de choses. Et en fin de compte, je me suis aperçu que l'Église, c'était le moyen thérapeutique que l'Éternel avait choisi pour moi, pour me lancer sur la voie. Le gros danger, c'est qu'il fallait que ça cesse, l'Assemblée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Ça veut dire que moi, je n'ai pas besoin de l'Assemblée pour parler au Seigneur, pour étudier la parole. Il y a eu ce temps de confinement et malheureusement, on a perdu beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui se sont écartés du Seigneur, qui n'ont plus le même enclin à étudier la parole parce qu'ils n'ont plus l'Assemblée. Parce qu'ils n'ont plus quelqu'un le dimanche pour apporter la parole. Parce qu'ils n'ont plus quelqu'un le mardi soir pour apporter la parole. Mais je vous rappelle que dans la barque, il y avait les disciples, mais il y avait Jésus. Et quand il y a eu l'affliction, il y avait Jésus qui était présent. Et qu'est-ce qui se passerait si Jésus n'est plus dans la barque? Là, on peut craindre. Et c'est le problème de nos générations aujourd'hui, c'est que malheureusement, beaucoup ont besoin d'une Église. Je ne suis pas en train de vous dire que l'Église, ce n'est pas bien. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il ne faut pas avoir que l'Église pour compter avancer dans notre vie. Parce que faites-en l'expérience, le jour où vous n'allez plus à l'Église et vous traversez vraiment une tempête monstre, vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez partir. Vous allez dire, j'ai passé tant d'années et il n'est même pas capable d'intervenir dans cette situation-là. Je l'ai déjà entendu. J'ai raccroché, je vous le dis tout de suite, j'ai raccroché. Bing, je n'ai même pas dit au revoir. C'est ça le danger, c'est que le Seigneur nous appelle à vivre en nous. En fin de compte, il veut vivre en nous. À partir du moment où il vit en nous, il est là en permanence, on lui parle pendant notre quotidien. On lui parle le matin quand on se lève, on lui parle dans la matinée, merci Seigneur, parce que tu m'as fait ça, parce que tu as permis ceci, parce que tu as permis cela. On n'a pas besoin de l'Église. Le gros danger, c'est ça. C'est ce matin, je vous invite à apprendre à marcher avec la parole, avec la présence de Christ dans notre vie. Et on l'a dit tout à l'heure. Mais comment se font nos frères et sœurs qui sont persécutés, comment ils font? Ils n'ont plus d'église. Expliquez-moi comment ils font. Si quelqu'un est capable de me l'expliquer, expliquez-moi. C'est parce qu'ils ont Christ dans leur cœur. Ils n'ont que lui. Ils n'ont que lui. Et je peux vous dire que ces gens-là sont capables de traverser les plus grandes afflictions parce que Christ est présent dans leur vie. Il faut reconnaître aussi que la détresse et l'accablement, c'est tellement oppressant que le croyant peut se trouver dans la capacité absolue de manifester quoi que ce soit. Il est figé. Il est incapable de prier. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où vous vous sentez incapable de prier, incapable de lire votre parole? C'est comme si vous êtes pris un mur en pleine figure. Je vous dis, c'est normal. La seule différence, c'est rester dans cet état. Il y en a d'autres qui ont manifesté une lassitude, mais vraiment une lassitude, parce qu'ils ont cru être abandonnés du Seigneur. Ils ont même demandé à mourir. L'exemple qu'on a dans la parole, c'est Moïse. Moïse qui a demandé à mourir, qui a regretté même d'être né. Tout ça parce qu'il a entendu le peuple regimber contre l'Éternel. Il a entendu les murmures. Il s'est dit, mais moi je suis incapable de conduire ce peuple. Nombre, chapitre 11, versets 14 et 15. « Je ne suis pas moi seul capable de porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. » Il demande à l'Éternel de le tuer. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Il demande à l'Éternel de le tuer parce qu'il est complètement accablé par la situation, par cet oppressement, par cette détresse de ne pouvoir conduire le peuple. Il dit, bah, quitte à ne pas remplir la mission, tue-moi. C'est dans ces conditions, alors que l'homme est totalement démuni, que l'homme a peut-être semble avoir sa foi éteinte, que le Seigneur agit avec puissance et opère une restauration complète. C'est au moment où on ne se débat plus. Voilà. Tant que l'on se débat, l'Éternel n'agira pas. Le jour où on pose les armes, le jour où on dit Seigneur, je n'en peux plus, agis. Il va agir. Il va agir d'une façon puissante et il va opérer une restauration. La restauration selon sa pensée, la nouvelle naissance. Tant qu'on va se battre, tant qu'on va refuser, tant qu'on va dire « je ne suis pas capable », si tu n'es pas capable, laisse-moi faire. Et il va le faire, il va restaurer. Le deuxième point, c'est les interventions indirectes. C'est-à-dire que Dieu intervient au travers de personnes. Paul a vécu ça. Il a été secouru directement par le Seigneur au travers d'autres personnes. Il a exprimé cette consolation divine au travers d'intermédiaires. Et cela s'est produit lorsque Timothée et Tite sont revenus lui apporter de bonnes nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 6 et 7. « Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. » Il a été consolé parce que Tite et Timothée lui ont dit. Et ça l'a mis dans la joie. En fin de compte, ça nous encourage chacun à ne pas tomber dans le piège des paroles négatives, de la médisance, des critiques, des calomnies, mais à désirer être des instruments de bénédiction pour le Seigneur. Est-ce qu'on veut ça ce matin pour notre vie? Est-ce qu'on veut être celui qui va relever au lieu de celui qui va être accablé? Est-ce qu'on veut donner des paroles valorisantes à ceux qui nous entourent, à ceux qui sont dans la détresse? Est-ce qu'on veut donner des conseils inspirés, pas par nous, mais par le Saint-Esprit? Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. En Ésaïe 50, verset 4. Paul a été très efficace dans son ministère. Il a apporté beaucoup de choses à sa génération. Mais il a eu souvent besoin des autres, de ceux qui l'entouraient. Il a été confronté à ses limites. Il a été confronté aux exigences du monde, à ses imperfections, à ses défaillances. Et en Actes 14, verset 20, on lit « Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. » Si vous lisez le verset 19, le verset qui est avant, on s'aperçoit que Paul venait d'être lapidé. Il venait d'être lapidé parce qu'il annonçait la bonne nouvelle. Et il a remarqué une chose, c'est que les disciples ont été d'une bienveillance avec lui incroyable. Et ça lui a donné de la force. Ça lui a donné la force de se relever et de continuer. Et il est reparti. Il s'est levé, il est reparti. Dans le cas d'une église, lorsqu'il y a une communion fraternelle et que celle-ci est manifestée, la consolation et la restauration va s'exprimer d'une façon puissante. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de division, lorsqu'il n'y a plus de clan, lorsqu'il n'y a plus de médisance, lorsqu'il n'y a plus toutes ces choses qui font que ben, l'esprit n'agit plus, que l'esprit n'y est même plus présent. Et le gros danger, c'est ça, c'est que l'Église est vide de Dieu, par les comportements. Mais lorsque cette communion fraternelle est manifestée, des temps de rafraîchissement viennent, des temps de visitation, des temps de relèvement par des paroles douces, comme l'Esprit. Et si on lit le psaume 133, on lit « Cantique des degrés de David ». Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. On le chante. C'est comme l'huile plus précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Sur quelle montagne on se trouve ce matin? Est-ce qu'on est sur la montagne de Sion, recevant les bénédictions de l'Éternel, ou est-ce qu'on est dans le monde, à critiquer, à médire, à calomnier? Le deuxième point, c'est que lorsque l'Éternel guérit, il est guéri de façon profonde. Le résultat extraordinaire de Joseph n'a pas été dans ses capacités à se guérir lui-même de ses traumatismes, mais le fils de Jacob mentionne que c'est l'Éternel qui l'a guéri et qui lui a permis d'oublier ses souffrances. En Genèse 41, verset 51, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Quand on est exposé à la souffrance, bien souvent ce qui se passe, c'est qu'on va enfouir cette souffrance au plus profond de notre être. Et ça devient une blessure. Et ça devient une blessure ouverte en permanence. Elle est en permanence au fond de notre cœur. Peut-être on l'a fait inconsciemment, peut-être on l'a fait consciemment. Mais cette blessure est toujours présente. Et peut-être que ça nous permet, je dis peut-être, de nous protéger. Peut-être que ça nous permet de surmonter les difficultés. Il y a une seule différence, c'est que cette blessure va faire des dégâts. Et souvent, elle ne fait pas des dégâts les jours qui suivent, les mois qui suivent, mais elle fait des dégâts des années après. Des années après. Parce que peut-être que cette blessure, peut-être que cette souffrance est liée à un manque de pardon. Peut-être que cette souffrance est liée à un comportement qu'on a eu et qu'on essaie nous-mêmes d'enfoncer au plus profond de notre être. Le comportement y est toujours, la blessure y est toujours, le manque de pardon y est toujours. On a beau prier. Et le Seigneur nous dira, mais je pardonne. Mais est-ce que toi, tu pardonnes ? Et quand vraiment l'esprit nous touche, des années après, c'est là où on s'effondre. Parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas pardonné. Et ce qui est bien et ce qui est rassurant de savoir, c'est que l'aide divine, l'aide de l'Éternel, se manifeste en traitant en profondeur ces choses. Elle élimine toutes les souffrances accumulées dans notre cœur, au plus profond de notre cœur. Et bien souvent, et je dis gloire à Dieu, le Seigneur fait ressortir ces choses des années après. Il les amène à sa lumière. Il ne les amène pas à la lumière du monde, mais à sa lumière. Et le but, en fin de compte, c'est de reconnaître devant lui ces choses, et de lui laisser dans la foi, de savoir qu'il va les prendre et les brûler. 1 Pierre chapitre 5 versets 6 et 7, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà ce qu'il faut faire. C'est lui donner ces blessures qu'on a au plus profond de notre être, afin d'être délivré. Bien sûr, ça nécessite le fait de se réfugier dans l'Éternel, dans la présence de son Sauveur, pour évacuer toutes ces douleurs intérieures, en les exprimant, en les nommant. La confession de la bouche avec la foi du cœur permet justement que ces choses se fassent. Matthieu 11, versets 23-24, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Voilà, c'est ces choses dans la foi qui doivent être faites. Les montagnes d'accablement, le traumatisme, les déchirures intérieures sont expulsées du cœur et abandonnées au Seigneur par la foi. La confession doit être celle du péché, celle de ce qui a déclenché et amplifié tout ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui. Psaume 32, versets 3 à 5, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. J'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » C'est dur de faire ça. avoué ses transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. C'est tout ce que le Seigneur demande. D'autres, ils ont cette part de faire le deuil du passé, d'une vie qui aurait pu être différente, pardonner l'inexcusable, à tourner la page pour aller de l'avant et progresser. C'est-à-dire, bon, on n'en parle plus. Hop. Quelles que soient les situations, lorsque les réalités sont mises en lumière par le Saint-Esprit, reconnues, exprimées et exposées au Seigneur, la grâce divine va être déployée abondamment pour accomplir l'œuvre de Christ en nous. Il n'y a plus de barrière, plus du tout. On est libre. Et l'œuvre dans la vie de Joseph a été remarquable parce que toutes ses peines ont été traitées. Toutes ses peines. Il a été libéré de toutes ses peines. Ce qui prouve, en fin de compte, l'Éternel ne souhaite pas, vous savez, commencer quelque chose, l'arrêter, revenir 3-4 ans plus tard. L'Éternel, ce qu'il veut faire dans vos vies, dans nos vies ce matin, c'est intervenir de façon profonde et définitive. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, verset 6. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. J'en arrive pratiquement à la fin. Paul affirme en fin de compte que l'efficacité de la consolation divine est là pour soigner toutes les afflictions sans exception. Tous les traumatismes, tout ce qu'on traverse de difficile. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Connaître la puissance de la consolation. Ça donne un espoir merveilleux à chacun, à ceux qui souffrent, car ils peuvent considérer que leur foi en Jésus va agir et que Jésus est attentif à tout ce qu'ils traversent et qu'il fera tout de façon nette et définitive pour les débarrasser de ce qu'ils sont en train de traverser. Le temps qu'il mettra, on n'en sait rien. Mais rappelez-vous, il est dans la barque avec vous au milieu de la tempête. On doit envisager notre avenir avec foi pour s'attendre à une manifestation divine, à cette consolation des choses peut-être du passé qu'on a enfouies, à une consolation peut-être des choses qu'on vit actuellement. Le Seigneur va poser sa main par la puissance de son Saint-Esprit sur ces choses. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce qu'on veut voir la gloire de Dieu ce matin? Je vais conclure ici. On n'a pas à définir le mode d'action, à déterminer comment on va faire, comment va faire le Seigneur dans notre vie. On a simplement à lui donner notre vie. Et quand je dis simplement, j'emploie pas un bon terme, parce que pour beaucoup c'est très difficile. Parce qu'il faut accepter vraiment que le moi n'existe plus. Il faut accepter que le Seigneur vienne, que le Seigneur nous vide de nos détresses, nous vide de nos blessures qu'on a enfouies profondément, et que par la puissance de son Esprit, il nous console, il nous lave. Et c'est simplement le fait de s'abandonner en l'Éternel. C'est ce que je vous invite à faire ce matin, vous abandonner en l'Éternel. Le Seigneur veut guérir ce matin. Le Seigneur veut consoler ce matin. Le Seigneur veut vous rendre puissant. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Rappelez-vous ce que dit ce verset. Si vous laissez l'esprit grandir, si vous laissez l'esprit agir, il va vous consoler de tous vos maux. Et il fera que vous resterez droit, même si la tempête est immense. Et vous sentirez sa main douce se poser sur vous. Et vous serez ainsi consolé jusqu'à la fin de vos jours. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette consolation que tu promets à chacun, Seigneur. Seigneur, ta présence nous suffit déjà pour nous consoler. Seigneur, qu'avec la puissance de ton esprit, Seigneur, ce matin, tu puisses guérir des âmes. Que tu puisses consoler, Seigneur. Je te demande d'aller vers notre sœur Jocelyne. Et Seigneur, que comme cette personne qui s'est présentée devant Jésus avant qu'il ne soit rentré chez lui, Seigneur, son fils était guéri. Seigneur, guéris Jocelyne. Par une puissance divine d'intervention venant de toi. Guéris son cœur, guéris son corps, guéris son âme. Remplis-la de ton esprit, Seigneur. Remplis-la de ton esprit, chacun ici présent, que chacun puisse connaître la plénitude de ton esprit pour être guéri dans ses profondeurs et vivre et glorifier ton saint nom. Amen.